Le gros point, Alain, c'est Vlad Guerrero. Et Vlad Guerrero, au Yankee Stadium, c'est l'endroit où il frappe le mieux en carrière.
Quand ça va pas bien chez des partants des Blue Jays, c'est juste que tu te sors du match très tôt. C'est ça qui m'inquiète chez les Blue Jays de Toronto.
Au jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Grand Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à compte complet, ce spécial série. Évidemment, l'attention sera portée sur passe dans cette deuxième saison du baseball majeur. Alain Huzeau en compagnie de Marc Griffin. Le programme d'aujourd'hui, pas très compliqué. D'abord, on revient sur les séries des équipes repêchées, par la suite analyse et prédiction des séries de division Ligue nationale, Ligue américaine. Marc, d'abord, nos prédictions, en ce qui me concerne, c'est 3 sur 4. J'ai manqué des Padres contre les Cubs de Chicago. Et en ce qui te concerne, ça ressemble à quoi?
Même chose, en fait, même résultat, 3 sur 4. Ouais. Moi, j'avais prévu, si c'était en 3, que les Guardians allaient l'emporter, alors que les Tigers, évidemment, ont gagné cette série. Alors, j'avais prévu les Cubs, donc 3 en 4 également.
Marc, on va commencer avec les Cubs et les Padres. Les Cubs ont gagné, ça n'a pas frappé beaucoup dans cette série-là. Ça a été toute une fin de série, fin de 9e manche, et... Écoute, de l'avis de la majorité des observateurs qui ont vu le match, il est à peu près temps que le robot arrive.
Ouf, Alain, pitié, à quel point c'est difficile pour un frappeur d'être discipliné, à regarder passer un tir de la sorte. C'était une quatrième balle, c'était toute une présence de Bogaerts, puis il se fait enlever le bâton de ses mains avec une décision. Tu sais, Alain, des fois, c'est bien, bien proche, mais là, elle était pas proche, celle-là. Par contre, évidemment, c'est sûr que là, ça paraît mal dans tout ce qui est... suite à ça, évidemment, il y a deux joueurs qui ont été atteints. Donc, on avait une chance, on avait le point égalisateur au bâton lorsque le match est terminé. Mais tout ça pour dire que c'est plate. Et effectivement, là, on a hâte que la zone de prise... qui va devenir aussi une stratégie, Alain, parce que là, on parle de la dernière manche, en souhaitant que les Padres auraient eu encore leurs deux... leurs deux possibilités. Ouais. Là. Mais si on regarde froidement cette série-là, Dansby Swanson a été probablement le grand responsable de la victoire des Cubs avec son gant. Et même Mike Shields en a parlé après le match. Il dit, écoute, honnêtement, il nous a battu à lui seul avec son gant. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça quand même illustre le portrait là, de ce qui s'est passé dans cette série-là. Là.
Je pense que le fait saillant du côté des Padres, Marc, c'est le premier match. Il y en a eu des occasions, puis on les a ratées. Le troisième match, Marc, appartenait aux Cubs. Je m'excuse, là, mais tout le long du match, on a menacé. C'est juste qu'on n'a pas été opportuniste. Moi, j'avais choisi les Padres parce qu'il y avait plusieurs joueurs chez les Cubs, il faut bien le mentionner, là, qui en arrachaient sérieusement à l'attaque. Alors, on a vu de belles choses de Crew Armstrong. Est-ce qu'il va être capable de transporter ça? Moi, je dirais, on en discutera tantôt. Mais la tenue des lanceurs des Cubs, Marc, je pense que c'était la clé. On a été meilleurs que les Padres.
Oui, en quelque sorte. Et ouais. Sans rien enlever au lanceur des Cubs, où était Fernando Tatis? Ouais. Tu sais, il y a eu un bon match à un moment donné où il a frappé un simple, puis il a volé le troisième, il est venu marquer. Après ça, il est paru complètement là, dans le match numéro 3.
Oui, c'est là qu'on avait besoin.
Il faut que tes meilleurs soient les meilleurs, puis dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas du côté des Padres. Machado a obtenu le gros circuit qui a fait la différence dans le match numéro 2, là. Mais je suis pas certain que tout le monde s'est présenté du côté des Padres dans cette série-là. Ouais. Il y avait pas mal plus d'énergie du côté de Chicago.
Oui. Bon, les Cubs qui s'en vont à la série suivante, en quelque sorte, la logique a été respectée parce que les Cubs ont eu un meilleur dossier. Donc, on s'en va affronter nos rivaux de Milwaukee. Je ne sais pas si on va y aller en avion ou en autobus, Marc, parce que c'est vraiment pas loin l'autre. Cincinnati, Los Angeles, on ne s'attendra pas là-dessus, Marc. Deux équipes dans deux ligues différentes, on a l'impression. La seule chose, Marc, c'est qu'on a exposé la relève un petit peu des Dodgers.
Oui, mais les Dodgers ont des solutions à ça, Alain. On en reparlera là, lorsqu'on reprendra évidemment la série de division entre les Dodgers et les Phillies. Mais oui, il y a comme un petit trou quelque part, là, 6-7e manche. C'est sûr que c'est pas rassurant, mais Alain Bett, c'est parti pour la gloire avec la série qu'il a connue. Teoscar Hernandez, fidèle à lui. Kiki Hernandez, fidèle à lui. Donc, les Dodgers, Alain, je pense qu'ils ont une meilleure équipe que l'année passée, alors qu'ils ont gagné la Série mondiale l'année passée.
Oui, ce sera donc à voir contre les Phillies, et comme on le mentionnait, donc on fera l'analyse de cette série-là contre les Phillies, peut-être la plus relevée des quatre séries là, qui vont être présentées au cours du prochain tour. Ligue américaine, Marc, juste un nom que j'ai en tête pour Boston Yankees, c'est Cam Schlittler.
Alain, on avait l'impression que c'était les beaux jours de Roger Clemens ou de, tu sais... Nolan Ryan, peu importe, le gars. Moi, là, premièrement, d'un joueur recru, ce qu'il a fait. En fait, d'un joueur d'expérience aurait été une sortie exceptionnelle. Encore plus d'un joueur recru. 70 % des balles rapides. Écoute, c'est sûr qu'à lancer à 100 000 à l'heure, à peu près où tu veux, ça va aider. C'était, je veux dire, c'était d'une pureté là, à voir ça, là, une domination. Et évidemment, tu comprends là que ça l'a énergisé son équipe. Alors, il avait même pas l'air dérangé au monticule. Il avait même pas l'air à transpirer au monticule. Il est arrivé là, c'est comme bang, bang, bang. Les Red Sox n'ont jamais été dans le coup. Honnêtement, là, ça faisait longtemps que j'avais vu une domination comme ça. D'une simplicité en même temps, là. C'est pas le gars qui arrivait avec un répertoire de 12 lancés, là. 70 % de ses balles rapides. C'est comme si, la voici, les gars, là. Puis bonne chance. Puis c'est lui qui a eu le meilleur.
Ouais.
Et puis écoute, est-ce que Aaron Boone a pris une petite partie du livre de stratégie de son adversaire? Parce que rappelle-toi, lorsque Garrett Crochet a lancé, il était rendu à 117, il a lancé le tard dans le match. Boone avait été critiqué d'avoir enlevé Max Fried. Là, il s'est assuré de laisser son grand partant au monticule pendant 8 manches. Vraiment, vraiment impressionné par ça. Surtout que les Yankees, Alain, ont gagné sans avoir frappé de coup de circuit.
Puis, non seulement ça, Marc, on a profité... On n'a pas frappé la balle solidement contre Early. Il n'a pas été chanceux. Bien franchement, là, tu regardes l'ensemble des quatre points des Yankees.
La défense.
C'est ça. Le coup sûr de Bellinger a ouvert les valves. C'est une balle qui n'aurait pas dû tomber.
Écoute, Alain, est-ce que tu as vu la course de Rafaela?
C'est pas une banane, c'est un demi-cercle.
C'est un demi-cercle. C'est une balle qu'on aurait pu saisir, honnêtement, là, évidemment, en course, là, mais pas plongée de la sorte de même. Ça, c'est une balle qui doit être saisie. Ça a donné de l'énergie, ça aussi, à tout le monde. Comme s'il y avait frappé un double, là, un bond par-dessus la clôture. Et puis, évidemment, après ça, il y a eu le jeu de l'eau au premier coussin. Bon, tu sais, on était nerveux hein, chez les Red Sox. On savait qu'on n'allait pas marquer une tonne de points, mais... Alex Cora l'a dit, tu sais, il faut attraper la balle. Hein. C'est un match ultime, Alain. Tu peux pas laisser des chances comme ça, surtout pas une attaque comme les Yankees de New York. Là. Alors,
bravo. Écoute, on a déjà parlé la tenue de Schlittler hier. Moi, quand je l'ai vu aller, le parallèle que je faisais, si tu me demandes un lanceur qui était dominant de la sorte comme ça, c'est Randy Johnson. Je sais qu'il venait, c'est un lanceur différent, c'est juste la vélocité. Puis Johnson, t'aurais pu le laisser pendant 18 manches, puis Schlittler est... Je pense que ça démontre, Marc, la raison pour laquelle on recherche de la haute vélocité. Tu sais, même si tu le sais que ça s'en vient à 100 000 à l'heure, Marc.
C'est la vélocité, oui, Alain. Mais lui, il lance où il veut. C'est ça la différence. Tu sais, combien de gars lancent 100 000 à l'heure aujourd'hui dans le baseball, Alain? Il y en a une tonne, là. Il y en a pas mal, là. Mais on ne sait pas trop où elle s'en va. Puis là, on tire de l'arrière. Lui, là, il tirait pas de l'arrière, là. Il lançait des prises. De temps en temps, une petite balle à effet, tu sais, juste pour... Mais 70 % de... Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de balles rapides, là. C'est sûr, la comparaison est bonne. Je penserais peut-être plus à, je sais pas, un Jacob deGrom ou un gars... Mais je veux dire, Alain, dans un match ultime, là, c'est pas le premier match d'une série 4-7, là. J'enlève rien à l'importance d'un premier match, là, mais d'arriver contre les Red Sox en plus... dans un Yankee Stadium plein à craquer. Moi, je vais te dire, là, j'ai été drôlement impressionné par ça.
Oui, puis je vais lever mon chapeau aux Yankees de New York, Marc. Pourquoi? 7e ronde, Et écoute, c'est un gars du territoire de notre ami Alex Agostino. Je ne dis pas qu'on l'a échappé, mais il nous a très bien expliqué. Ce gars-là ne le lançait pas à cette vélocité lorsqu'il est venu le temps de le repêcher.
Tu regardes son physique, c'est pour ça que c'est difficile d'être un dépisteur. Il faut que tu projettes dans l'avenir.
Oui.
Et là, ben, le gars, va-tu prendre 1 000 à l'heure ou il va prendre 12 000 à l'heure? Tu sais, c'est pas évident nécessairement, mais en tout cas, 7e ronde, Alain, il y en a pas mal qui l'ont échappé.
oui. Puis, Marc, c'est pas une question de physique, là. il a le gabarit, là. Tu sais, donc, c'est pour ça que je te dis, les Yankees ont effectué de l'excellent boulot dans le développement de Cam Schlittler en cours de route. Maintenant, la dernière série, Marc, Détroit-Cleveland. On s'attendait à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de points dans cette série-là. Il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Ça s'est décidé sur des détails. Et Marc, ça reposait dans le troisième match sur Flaherty. Puis Flaherty a sorti un bon match. Tu sais que c'était des montagnes russes hein, cette année pour Jack Flaherty. Je suis convaincu qu'il y a des partisans des Tigers qui étaient nerveux. Puis il a réussi à tenir son équipe dans le match assez longtemps pour que les Tigers finalement s'éclatent à l'attaque.
Ouais. Oui, ça a pris deux matchs et trois quarts pour qu'on s'éclate un peu là, en attaque là, du côté des Tigers. Mais Alain, ça n'a pas été une série propre. Des erreurs. Il y a pas eu ça n'a pas été une belle série. Ça a été une belle série parce que ça s'est terminé en trois, puis c'était serré jusqu'à tard dans le match numéro trois. Là. Mais il y a eu des erreurs. Là. Des balles échappées, il y a eu des mauvaises courses sur les sentiers. C'était pas propre. Alors, est-ce que là, ça peut relancer un peu les Tigers? Est-ce qu'on va voir les Tigers du mois de juin? Ou on va voir les Tigers là, de la fin du mois de septembre. On verra lorsqu'on parlera de la Ligue américaine là, contre les Mariners. Mais c'est ça. Je trouve que c'est une série là, qui a exposé deux équipes qui. Du côté des Guardians, on a manqué de souffle. Alors, on avait un héros à chaque match en septembre qui nous permettait de revenir dans et remporter de la division. Mais là, on s'est rapidement essoufflé en série. Drôle de série.
Ouais. Avant de penser à la question, Marc, j'ai une question. Il faut absolument que je te pose une question relativement à la gérance des lanceurs. Bon, je veux pas revenir sur le match Cubs. C'est pas là que je m'en vais. Ça, on aura l'occasion d'en reparler à un moment donné. Regarde les Padres. Dans le match numéro 2, il fallait absolument gagner. Là, le match numéro 3, on a utilisé des lanceurs des deux côtés. Trois jours de suite, ce qu'on fait à peu près jamais. Et là, je ne sais pas comment faire du côté des équipes pour gérer ces lanceurs-là dans la perspective où tu veux te rendre jusqu'au bout. Mais Marc, tu ne peux pas gérer ta relève. Regarde les Padres, s'ils avaient gagné, là, on rentre déjà dans la prochaine série un peu hypothéquée. Il t'en reste deux autres après.
Écoute, je suis tellement d'accord, Alain.
J'ai pas la réponse. Je te dis juste, c'est tout un défi là, de gérer les lanceurs. Puis je comprends pourquoi qu'on le fait, les changements. Là, puis regarde, je te dis juste, là, tu fais comment pour essayer d'étaler ça en trois semaines? Tu peux pas. L'année passée, on l'a vu, Cleveland.
Écoute, Alain, le gérant ou les gérants gèrent le match présent sans vraiment penser à l'avenir. Surtout dans un match ultime. Mais c'est sûr que ça va les exposer. C'est pour ça, moi, que il n'y en a pas de solution, Alain, en fait. Il n'y en a pas. Et t'espères que... Tu sais, regarde, ce que Schlittler a fait hier pour les Yankees, je veux dire ça, là, c'est tombé du ciel. Là.
Oh oui.
Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il faut juste étirer la sauce avec ton partant un petit peu plus. Tu sais, s'il est dominant, là, puis là, tu me dis non. Tu sais, je veux dire, honnêtement, là, le match des Cubs hier, là, juste pour revenir sur celui-là, on était essoufflé en relève chez les Cubs, là. Il n'aurait pas fallu, là, Alain, que les Padres créent l'égalité, là. Hey, on a sorti Jameson Taillon, selon moi, très tôt. Fait que ça a causé. Bon, là, c'est un match ultime, faut que tu le gagnes, puis je comprends la décision. Mais ça va avoir un effet pour la suite. Rappelle-toi les Tigers l'année dernière. À un moment donné, ça pouvait pas marcher de même. Là, on a utilisé la relève à compter de la cinquième manche. Okay? T'es sûr que sur une série où ce soit 3-5 ou 4-7 par la suite, à un moment donné, le gars peut pas tout faire. Alors, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis Alain, s'il y en avait une solution, tout le monde l'appliquerait. Là, mais la solution est et que tu souhaites que tes lanceurs partants, si tu leur permets d'aller un petit peu plus loin, ça c'est-à-dire au moins lancer dans le troisième tour un peu, mm-hmm. tu sais, c'est 27 retraits. Hier, Jameson Taillon est allé chercher 12. Ben, mm-hmm. Il en restait 15 à aller chercher des retraits.
Ouais.
Ouais. Tu sais, c'est pas soutenable à long terme. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais
ouais, il fallait gagner le match.
Exact, exactement. Moi, alors,
la seule chose, Marc, que j'ai pas compris dans les Cubs hier, c'est qu'on avait un plan, puis c'était clair. Gaucher au deuxième tour, on amenait un gaucher, tu sais, les trois gauchers de suite. On l'a fait au troisième tour. Puis là, rendu en neuvième, on a changé notre fusil d'épaule. Keller est revenu. J'aurais compris s'il avait été gaucher qu'il soit revenu. Mais là, c'est ça. Bon, je ne sais pas pourquoi c'était logique au deuxième pour au troisième tour, puis rendu à la fin, ça ne l'est plus. C'est ça, moi, que je m'explique mal la décision des Cubs là, à cet effet-là.
Écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Ouais, et, évidemment, Alain, tout au long des séries, on va se poser les mêmes questions là, parce qu'on va se retrouver dans des situations similaires. Puis, regarde, écoute, on verra.
Juste la question, puis brièvement, Marc, est-ce que toi, tu as été surpris que dès le début des séries, déjà, on commence à jouer de cette façon-là avec les lanceurs?
Écoute, Alain, tellement, là. Tellement. Puis regarde ce que les Dodgers ont fait l'année passée pour passer à travers. Là. Alors, je veux dire, d'année en année, là, ça ne change pas. Qu'est-ce que tu veux? Les données nous indiquent que c'est comme ça qu'il faut aller. Je ne sais pas qui va oser. Moi, je pense qu'un gars comme Pat Murphy pourrait oser avec ses lanceurs partants du côté des Brewers. On verra. Mais s'il y a un gérant qui semble avoir une belle liberté, c'est lui. Alors, on verra ce que ça va donner en série.
Oui. Bon, Marc, c'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Écoute, la série Dodgers-Phillies, Marc, il y en a plusieurs qui prétendent que c'est la série qui va déterminer qui s'en va en série mondiale. On va entendre, tu sais, si les Brewers balaient les Cubs, ça se déroule en 5 matchs avec un paquet de releveurs, on pourra revenir sur nos prédictions. Donc, mais la question qu'on vous pose relativement à cette série-là, qui aura le dessus, quel trio aura le dessus dans la série Dangerous Phillies? Otani, Betts, Freeman ou Turner, Schwarber, Harper? C'est intéressant, donc je vous invite à aller sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado et aussi, pourquoi pas, aller sur notre site internet compte-complet.com.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Alain, je prends quelques instants pour souligner notre partenaire principal, Plan de Match Boutique. Merveilleuse boutique de baseball. Il y a tout pour les amateurs. Il y a également cage intérieure. Alors, l'automne s'en vient, l'hiver s'en vient. On peut quand même s'entraîner au baseball, cage intérieure, donc à Boucherville. Il y a une autre adresse au Saguenay, évidemment. Allez sur leur boutique en ligne également, tout l'hiver. La saison morte, si vous voulez, là, l'équipement est disponible. Allez sur leur site Internet. Donc, merci à Plan de Match. D'ailleurs, si vous voulez plus de renseignements sur nos partenaires ou notre balado, visitez notre site Internet qui est le www.comptecomplet.com.
Oui, les personnes qui jouent dans des ligues, là, c'est une bonne façon de ne pas perdre la main ça, dans l'entre-saison, d'aller frapper à l'intérieur.
Oui, monsieur.
Marc, Dodgers Phillies. Oh, monsieur, c'est toute une série, une panoplie de joueurs étoiles de part et d'autre. Bon, ça commence à Philadelphie, c'est l'avantage que les Phillies vont avoir. Zach Wheeler n'est pas là. C'est sûr qu'on a de la profondeur chez les partants, Marc. T'as des trois gros gauchers. Je ne sais pas comment on va gérer notre personnel de partants. Du côté des dangers, bon, constellation d'étoiles, le jeu de mots est trop facile. Ça va être toute une série, Marc, entre ces deux équipes-là.
Puis, tu sais, Alain, là, tu sais, essayer de déterminer un gagnant dans cette série-là, c'est quand même pas évident, là. Bon, le cœur de l'équipe, les Schwarber, les Harper, Alain, ils ont passé tellement près au cours des dernières années, mais on n'a pas remporté notre série mondiale. Je pense que ça peut jouer un rôle d'aller, tu sais, de se motiver, mais ça va frapper des deux côtés. Tu sais, on a... Il y a deux éléments, je pense, qui peut faire pencher la balance. Tu as parlé de la courte relève des Dodgers. Moi, je parle surtout de la relève de 6-7e manche. C'est sûr qu'il y a peut-être un avantage un petit peu du côté des Phillies, mais même là, je trouve que c'est pas parfait, alors que, que Duran, en fin de rencontre, je pense que c'est assez sûr. Mais si peut-être le joueur clé chez les Dodgers, ce sera Roky Sasaki, pourrait venir, selon moi, terminer les matchs. Si c'est le cas et que ça va bien, Alain, je trouve que les Dodgers ont une meilleure équipe. Ils sont mieux équipés cette année que l'année dernière, alors qu'on a gagné la Série mondiale. Les partants sont en santé. On donnera pas une tonne de points, même si on affronte des Phillies. Mais encore là, tu sais, si Schwarber et Harper se mettent à frapper comme ils en sont capables et Trey Turner, je trouve ça bien difficile de déterminer un gagnant assurément dans cette série-là. Ça va être spectaculaire. Mais je pense quand même que si Sasaki fait le travail en fin de rencontre, ça donne une solution beaucoup plus facile à Dave Roberts que ce qu'on a actuellement. Je vais dire ça de même. C'est peut-être là que je pense que les Dodgers pourraient avoir un petit avantage compte tenu du reste. Puis tu sais, Alain, on a parlé souvent en saison régulière que les Dodgers, frappeurs 7, 8 et 9, c'est un petit peu plus difficile. Un petit peu moins vrai là en fin de saison. Alors, est-ce que c'est des gars comme Bader qui vont faire la différence? Ou ça va être un gars comme Kiki Hernandez qui a l'air Monsieur Octobre pratiquement, là, tellement il est bon au mois d'octobre. Fait que ça pourrait jouer aussi à travers ces joueurs-là, cette série-là.
Là, Marc, écoute, c'est quand même paradoxal. Et la question que j'ai, quand on regarde les Phillies, il y a deux choses que j'ai regardées principalement. Le différentiel des deux, on est à peu près à la même place. Les deux, moi, je regardais l'affiche des deux équipes contre les équipes qui jouent pour plus de 500. On a été très bons de part et d'autre. C'est 10 au-dessus de 500 ou à peu près de part. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Donc, de ce côté-là, c'est assez partagé. Et on semble donner un très gros avantage chez les partants, chez les Dodgers, Marc. Et ça revient toujours à la même chose. Vélocité. Parce que Sanchez, Marc et Suarez, c'est pas des gars qui vont défoncer le radar. Tu comprends? Mais si tu regardes les statistiques, ils ont rien à envier aux Dodgers. C'est juste que les Dodgers, t'arrives, ça s'en vient avec Glasnow, ça s'en vient vite. Yamamoto, la même chose. Blake Snell, c'est au-dessus de 95. La vélocité semble un peu, je te dis, en tout cas, influencer les observateurs. Je sais pas ce que t'en penses parce que t'as déjà souligné, Marc, le fait que on regarde pas assez des lanceurs qui, tu sais, de finesse. Je dis pas qu'ils sont de finesse parce qu'ils sont capables de la pousser quand même à 93-94 dans le cas de Sanchez et Suarez. Mais c'est quand même pas de la vélocité à la hauteur de ce qu'on a chez des Dodgers. Moi, je pense que ça influence beaucoup les observateurs.
Ben, écoute, moi, ça m'influence pas tant. Moi, c'est plus le fait que, bon, par exemple, on a Blake Snell dans cette série-là, qui va évidemment lancer à un moment donné. Puis là, de l'autre côté, t'as Schwarber puis Harper. Donc, je parle des gros frappeurs gauchers. Et de l'autre côté, ben, t'as Freeman et t'as Shohei Ohtani. Je parle de frappeurs gauchers. Alors que eux autres vont affronter une série de lanceurs gauchers, là. Luzardo est là. T'en as trois, là, finalement. Alors, mais est-ce qu'à force des affronter, on va pouvoir se familiariser contre eux autres? Moi, c'est plus les duels que d'autres choses, que la vélocité, tu sais, bien honnêtement, là. Et c'est là, parfois, que tu sais, tu regardes un gars comme Yamamoto avec son répertoire, lui, gaucher-droitier, là, ça n'a pas d'influence. Donc, ça va peut-être se jouer au niveau des duels beaucoup plus, selon moi, que la vélocité contre la finesse. Et à ce niveau-là, puis c'est pour ça que je trouve que là, les Dodgers, si on a à entrer, Alain, dans un territoire où les Dodgers sont un peu plus faibles, là, c'est justement là, le duel en sixième, septième manche. À un moment donné, ton partant, là, il faut que tu le sortes. Par exemple, il a atteint un certain nombre de tirs. C'est les Vessia de ce monde qui vont venir affronter Schwarber, Harper. C'est là, moi, que l'impression que ça, c'est là que les Phillies pourraient se faufiler et aller chercher la grosse manche. Là,
ouais. Pourrait y avoir des changements dans les formations, Marc, même probablement, on était à 12 lanceurs. Anthony Banda, ce serait pas surprenant qu'il revienne là, dans la formation compte tenu
et l'utilisation d'un Clayton Kershaw peut devenir primordial en raison de la présence d'un Schwarber et d'un Harper, alors que là, tu peux amener un Kershaw qui, avec, bon, évidemment, la patte gauche. Donc, ça va devenir de beaux duels.
Oui. Marc, c'est temps de se mouiller. Je vais y aller en premier, puis je vais y aller avec les Dodgers. Je pense, tu as mentionné quelque chose tantôt. Ils ont plus de profondeur chez les partants cette année qu'ils en avaient l'année passée. Ça va exposer, entre guillemets, moins la relève, quoique même avec seulement deux manches, on l'a vu contre les Reds, pas de puissance offensive. Ça, c'est la préoccupation première. Mais je pense que les Dodgers vont être capables de s'en sortir face aux Phillies de Philadelphie. C'est ça, j'ai l'impression qu'on n'aura pas autant de points qu'on pense en raison de la qualité des lanceurs qu'on aura, parce que les Phillies en ont de très bons. Mais les Dodgers vont s'en sortir. C'est ma prédiction.
Ouais, écoute, Alain, c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai l'impression que l'équipe qui va gagner cette série-là va aller directement en série mondiale. J'enlève rien aux Brewers ni aux Cubs. Mais c'est deux sacrées bonnes équipes là, qui s'affrontent. Je vais aller aussi avec les Dodgers. Mais tu sais, j'y vais du bout des lèvres, un peu comme j'avais fait dans la série Yankees-Red Sox en première ronde. J'y vais un peu du bout des lèvres en me disant, tu sais, comme j'ai mentionné, peut-être que Sasaki va jouer les héros. Est-ce que Kershaw, dans son utilisation, pourra aussi vraiment aider l'équipe? Mais tout ça pour dire que ça va être une bonne série. Ça, c'est nous autres, les amateurs, qui vont en profiter. Là.
Oui, maintenant, Chicago, les Cubs contre les Brewers de Milwaukee. Marc, on a vu le réveil de Crow Armstrong en fin de série contre les Brewers. Il faut absolument que lui ou Tucker ou les deux se réveillent. Remarque, Suzuki va très bien. Suzuki frappe la balle d'aplomb. Ça n'a peut-être pas paru au dernier match quand on regarde le sommaire, Marc, mais un solide double qui a contribué aux deux premiers points de son équipe. Plus tard, il a frappé une balle. Si ça avait été frappé en flèche, Marc, la balle roulera encore. Il a juste... Bref, c'est le meilleur frappeur actuellement chez les Cubs. Chez les Brewers de Milwaukee, ils ont une saison exceptionnelle. Ils ont été très bons, très opportunistes à l'attaque. Parce que tu regardes le MPP plus global, c'est au-dessus de la moyenne, mais rien de spectaculaire. Au monticule, Marc, les partants ont transporté cette équipe-là. On a eu de très, très belles surprises, particulièrement Quinn Priester, qui a été sensationnel. On a notre partant numéro 1 avec Peralta. C'est une belle équipe. Je sais que c'est le genre d'équipe, toi, que tu adores, ce qu'on a vu des Brewers de Milwaukee.
Oui. Oui. Ben, tu me connais bien, Alain, parce que on frappe pas les coups de circuit à la tonne. Mais on est fatiguant, Alain. On est, tu sais, des présences de qualité, des gars sur les buts. Tu sais, on frappe pas, comme j'ai dit, une tonne de coups de circuit, mais de 1 à 9, on vous donne des bonnes présences au bâton. Tu sais, c'est intimidant d'affronter une équipe, tu sais, qui est toute en puissance, parce que t'en échappes une, puis un coup de circuit, mais une équipe qui prend des lancers, moi, je trouve que cette équipe-là est gérée de main de maître de la part de Murphy. J'aime beaucoup cette équipe. Les Cubs, Alain, tu as mis le doigt dessus. Si le dernier match dans la série contre les Padres, avec ce qu'on a vu de Pete Crow Armstrong et de Kyle Tucker, là, soudainement, les Cubs vont arriver pas mal plus équipés. Moi, c'est au niveau des lanceurs partants, ça m'inquiète plus du côté des Cubs de Chicago. Ouais. Et si les partants vont pas loin, ben ce qu'on a parlé dans le premier bloc, on va exposer un peu plus la relève. On va finir par se fatiguer.
Oui.
C'est là. Fait que, mais j'aime la façon dont les Brewers jouent à la balle. Ça, c'est du vrai baseball. Je dis pas que le reste, c'est pas du faux baseball, là, mais c'est de provoquer des choses, de courir un peu, de, je sais pas. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup.
Oui, puis Marc, en attaque, là, c'est l'équipe qui a terminé premier dans la moyenne de présence sur les sentiers. T'sais, c'est la statistique. Si on en isole une, là, en attaque, c'est la principale. Puis je veux juste revenir à la raison par l'absurde. C'est quoi le but d'un lanceur? C'est de retirer le frappeur. Inversement, le frappeur, c'est quoi son but?
C'est de ne
pas, c'est de ne pas être tiré. Donc, ouais. Rends-toi sur les buts.
Exact.
C'est pas compliqué ouais. Là, du côté des Brewers de Milwaukee. Ceci dit, Marc, j'ai des préoccupations pour les partants aussi. C'est pour ça que je vais prendre pour les Brewers de Milwaukee dans cette série. Tu sais, Taillon a lancé 4 manches, c'est correct. Tu pourras pas, je pense, tu pourras pas. J'observais, le calendrier va favoriser les Cubs. C'est pas compliqué, là. En raison de 3 journées de congé dans cette série 3-5. Donc, si on veut gérer nos lanceurs comme on l'a fait dans les 3 premières dans les 3 matchs, dans le fond, de la série des équipes repêchées, je pense que ça va être faisable, mais ce sera pas assez. Je pense que ce sera pas assez. Mais Milwaukee va avoir le dessus sur les Cubs, d'après moi.
Ouais, ben, écoute, on a la même prédiction encore. Ouais. Moi, je vois les Brewers, mais ça sera pas aussi facile. Tu sais, ça sera pas.
Je
pense qu'on va quand même, les Cubs, pour la raison que tu as mentionné, un calendrier qui est peut-être un peu plus favorable, là, remarque que c'est aussi favorable pour les Brewers, là.
Ouais.
Mais ça va rendre ça serré. Mais je pense qu'au bout de la ligne, les Brewers devraient avoir le meilleur.
Oui. Donc, de ce côté-là, on verra pour le reste de la Ligue américaine, mais Dodgers et Milwaukee. Pour cette série. C'est le temps de la carte de baseball de la semaine d'une présentation de cartesetudiantsdepot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction. Notre carte de la semaine, Orel Hershiser, c'est la série Score de 1988. C'est la carte numéro 470 pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est-à-dire la carte. Vous pourrez la voir ce samedi sur notre page Facebook. Orel Hershiser, 88, Marc, c'est ta première année avec l'organisation des Dodgers. C'est assez difficile pour toi d'oublier ce qu'il a fait au mois d'octobre, Orel Hershiser. Il a transporté les Dodgers à lui seul pendant les séries.
Ouais, là, lui, il est impressionnant. Et lorsque je me suis présenté au mon premier camp d'entraînement en 89, de le voir passer. Écoute, c'est un grand mince, hein. Il veut dire un coup de vent, là, t'as l'impression que ça peut partir, là, mais prestation d'un peu de puissance, sans être un lanceur de grande puissance. Il avait quand même une bonne balle rapide, mais surtout d'intelligence au monticule de finesse. Il avait été tellement bon, Alain. Moi, j'ai été très impressionné. Je l'ai affronté plus tard lorsque je me suis retrouvé dans l'organisation des expos au camp d'entraînement. J'ai affronté Orel Hershiser. Je me suis fait retirer sur des prises, Alain. Je me souviens encore la présence. J'avais une bonne présence, là. À un moment donné, je pense que c'était rendu 1-2. J'avais fait une coupe de balle fausse d'aplomb. Il me lance un changement de vitesse. Là, c'était 1-1. Il me lance un changement de vitesse. Et je parais mal. fait que là, je me dis, bon, ben il va m'en lancer un autre. Il m'en a lancé un autre. Et je me suis retrouvé dans la brique, mon bâton. Alors... Mais je veux dire.
Oui, c'était une époque, Marc, où tu voyais pas ça souvent, deux changements de vitesse de suite.
Ben, c'est ce que je me disais, là. Je me disais, tu sais, je vais essayer de. Alors, mais bon.
Ouais.
Tout ça pour dire que c'est un grand. Puis c'est devenu un analyste, Alain, à la télévision des Dodgers. Et tu vois toujours que dans ses propos, j'adore écouter Hershiser dans ce qu'un lanceur pense. Et je veux dire, lui, là, le QE baseball lanceur. C'est ce qui lui a permis d'être au-dessus de la vague, selon moi.
C'était pas un amateur de hockey, ça aussi, Orel Hershiser, Marc?
Oui, on a déjà parlé d'un petit peu de hockey, effectivement. Surtout avec son frère. Son frère a passé une bonne partie de sa carrière dans les ligues mineures. Et donc, tu comprendras que j'ai eu plus de temps à passer avec le frère, mais c'est une famille, effectivement, qui appréciait le hockey.
Ouais. Juste retour sur la série de Orel Hershiser, de sa série La Carte 470 de Score. C'est une compagnie qui a produit des cartes pendant une dizaine d'années avant d'être rachetée à la suite d'une faillite. Donc, Orel Hershiser, évidemment, au mois d'octobre, très difficile d'oublier ce qu'il a réalisé pour les Dodgers dans cette fameuse saison. Avait été nommé le joueur par excellence de la série de championnat contre les Mets et de la série mondiale contre les A's d'Oakland. C'est le temps de notre section pour promouvoir la lecture chez les jeunes, la lecture avec thème principal de baseball, avec les œuvres de notre ami Bob McDuff. Je vous invite à aller sur son site internet www.baseballbob.ca. Il y a 4 livres de cette collection qui sont disponibles, dont le 4e qui est sorti plus tôt cette année, Baseball Bob et Le Chant des Tournesols. Le profil de la semaine, Teoscar Hernández des Dodgers. 6 points produits au cours des 2 premiers matchs les deux matchs, en fait, que les Dangereuses ont disputé face aux Reds de Cincinnati. Gros match initial, un gros circuit de 3 points qui a sorti presque les Reds du match en début de rencontre. Marc, embauché par les Astros de Houston avec un body de 20 000 $. Les Astros se sont spécialisés dans ce genre d'embauche, Marc, chez les joueurs latino-américains. On va un peu plus loin, Marc, que les gros, gros prospects. Il est originaire de Cotuí. Ça, c'est au centre de la République dominicaine. Pour ceux qui sont déjà allés en République dominicaine, les lieux de villégiature sont complètement à l'est de l'île. Santo Domingo, c'est au sud, Santiago, un peu plus au nord. Et entre les deux se trouve Cotuí. Donc, il n'y a pas de plage tout près de Cotuí. Il faut faire un petit 2 heures de voiture là, pour trouver l'eau quand on est de là-bas. Autrement dit, c'est pas un endroit où les recruteurs vont se retrouver. Hernández s'est trouvé dans l'organisation des Astros de Houston. Quand il était prêt, Marc, les Astros regorgeaient de joueurs de talent. Il y en a quelques-uns qu'on a échangés parce qu'on avait un surplus. Laureano fait partie de ce groupe. Même Josh Hader qui est revenu, mais on l'avait échangé éventuellement. Donc, tout ça pour dire que Hernández a eu sa chance lorsque les Blue Jays de Toronto l'ont acquis. Les Astros, c'était en 2017, donc les Astros voulaient des bras. On a acquis Francisco Liriano, qui n'a pas été un gros facteur pendant des séries. Il a quand même remporté sa série mondiale. Mais dans le cas de Teoscar Hernández, Marc, avait fait bonne impression et au niveau 3A et avec les Blue Jays. N'a pas commencé l'année suivante avec les Blue Jays. Mais quand on l'a rappelé, ça n'a pas été long qu'il a fait sa marque. Il est demeuré dans le baseball majeur depuis. Écoute, il a fait partie de très bonnes équipes avec les Blue Jays. Il a fait des séries avec eux. C'est un membre important, cette équipe-là. Et Marc, il avait signé un contrat l'année passée d'1 an. La demande n'était pas si forte que ça pour Teoscar Hernández. Il avait des doutes quant à sa défense. C'est un gars qui est rendu au début de la trentaine. Mais après une année, les Dangereuses se sont dit, ben, regarde, on va te donner un contrat de quelques années. Puis finalement, il est revenu. Il a connu tout un début de saison. Il y a une blessure, Marc, qui a fait en sorte que sa production a baissé. Et là, on semble revoir le Teoscar Hernández, producteur de points, celui, en fait, qu'on a recherché quand on l'a remis sous contrat.
En tout cas, c'est le genre de gars, Alain, il en ramasse-tu des points produits laissés par ses coéquipiers? T'as l'impression, ben oui, lui, qu'il ramasse tout ça et qu'il s'en est fait une spécialité. Moi, Alain, c'est drôle, hein, parce qu'il était sorti de Toronto un peu parce qu'il était un petit peu trop de bonne humeur.
Oui.
Puis les Dodgers adorent cette bonne humeur-là. Fait que je sais pas, là, les Dodgers me semblent avoir plus de succès que les Blue Jays. Ouais. Moi, je pense que les Blue Jays, à un moment donné, quand ils ont décidé là, de changer un peu ce qui se passait dans le vestiaire, ça a l'air que c'était un petit peu trop le party avec Gourriel et Oscar. Mm-hmm. Pas sûr qu'on a fait on a posé les meilleurs gestes à ce moment-là. Mais bon, on ne retournera pas dans le passé. Ouais. Oscar, regarde, il fait exactement ce pourquoi on le paye. Produit des points. Donne-nous une défense qui va faire le travail sans être spectaculaire, mais produit des points lorsque c'est le temps. Regarde, moi, je trouve qu'il complète parfaitement le gros trio de frappeurs. Je pourrais même ajouter un Will Smith lorsqu'il est en santé. Là.
Ouais.
C'est vraiment le gars parfait là, derrière, où tu as l'impression que le lanceur dit « Bon, j'ai passé à travers le cœur. » Puis là, ben, Teoscar arrive au bâton, puis profite de ça.
Juste souligner ses statistiques en série, Marc, depuis le début de sa carrière, en 22 matchs, MPP à 8,76, 22 matchs, 7 circuits, 22 points produits.
C'est des gars même que tu veux en série, là.
T'sais? Ben oui, exactement. Prédiction et analyse, Ligue américaine, Yankees, Blue Jays de Toronto. Ouf. Je veux revenir, Marc, sur une remarque que je t'avais faite avant que les séries commencent. Moi, j'aimais énormément la façon dont la rotation des partants est en train de se former chez les Yankees de New York. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils vont battre les Blue Jays.
C'est sûr que ça ne sera pas facile, de toute évidence, et pour les Blue Jays et pour les Yankees. Je pense que ça va être une série là, qui peut aller jusqu'à la limite. Les Yankees sont équipés pour veiller tard, on va se le dire, mais ils ont des failles. Ils ont gagné le dernier match, Alain, dans la série face aux Red Sox.
Oui.
Mais je trouve pas que l'attaque, l'attaque est impressionnante statistiquement, là, mais présentement, je pense qu'elle est maîtrisable, cette attaque-là. Les Red Sox, Alain, se sont sortis aussi du match. Bon, évidemment, Schlittler a été extraordinaire, là, on s'entend, là.
Ouais.
Mais la défense des Red Sox a été coup-ci, coup-ça, dans le match 2, dans le match 3.
Ouais.
C'est allé déjà sorti. ça ne sera pas le même avec les Blue Jays. Les Blue Jays sont bons en défense, Alain, sont fatigants. C'est l'équipe qui est la moins retirée sur des prises. On met des balles en jeu. On va en mettre de la pression sur la défense des Yankees, assurément. Le gros point, Alain, c'est Vlad Guerrero. Et Vlad Guerrero, au Yankee Stadium, c'est l'endroit où il frappe le mieux en carrière. Alors, il carbure au Yankee Stadium. Là, tu vas me dire que les deux premiers matchs sont à Toronto, là, fait que c'est important d'en gagner un des deux, là, mais il y a deux éléments. Si Vlad est motivé au point qu'il veut absolument battre les Yankees et retrouve son élan, là, il y a un grand avantage. Ben, certainement un avantage qui va du côté des Blue Jays. Qu'est-ce qui va se passer avec Bo Bichette? Là, on cache tout ça, là. Il a pas encore couru, mais des fois, j'ai l'impression qu'on joue un peu, là, on cache un peu la nouvelle. Mais c'est sûr que si Bichette est de la formation, là, soudainement, on a quelque chose encore un peu plus intéressant du côté des Blue Jays de Toronto. Moi, Alain, c'est au niveau de la relève des deux côtés. Ça peut se jouer là, et là, honnêtement, boîte à surprise. Les deux côtés. Parce que Bednar a fait un très bon travail, mais c'est pas parfait. Là. Devin Williams n'a pas retrouvé, c'est pas le Devin Williams des belles années. Là. Weaver, on a vu contre les Red Sox, c'est pas parfait. Mais on peut dire la même chose du côté des Blue Jays. T'sais, Hoffman, Dominguez. Là, j'ai hâte de voir comment on va utiliser Varlin. Mais donc, c'est peut-être là que ça va jouer. T'sais, les partants, tu l'as dit, des Yankees, effectivement, bon, heureusement qu'on n'affrontera pas Schlettler dès le départ, mais. T'as quand même des gars comme Max Fried et Carlos Rodon là, dans la rotation. Là. Fait que ça sera pas évident. Mais les Blue Jays, Alain, ont connu du succès contre les Yankees cette année. On ne s'est pas laissé intimider par le Yankee Stadium. On ne s'est pas laissé intimider par cette organisation-là. Fait que ça va rendre la série encore plus le fun, plus intéressante. Moi, je pense que ça va aller à la limite. Je vais donner un léger avantage aux Blue Jays compte tenu de la manière dont ils ont gagné cette année. Ils peuvent te battre de plus de manières que les Yankees, selon moi.
Oui. Écoute, ça, c'est la série où on ne sera pas d'accord, Marc. Ça,
C'est parfait.
Puis, en ce qui concerne les Yankees, ils ont un net avantage chez les partants, Marc. J'aime beaucoup Gausman. Quand il est bon, il est très bon. Tu as vu le dernier match de la saison, Marc, quand ça va mal, ça va pas bien, puis tu le sais tout de suite. Pas compliqué là, avec Gausman, là, tu te trompes pas. Tu sais déjà à quoi tu vas avoir affaire dès la première et la deuxième manche. Je trouve ça fragile. Je te dis pas, sur le long terme, Marc, on va avoir un rendement. C'est juste que je trouve que les fluctuations, quand ça va pas bien chez des partants des Blue Jays, c'est juste que tu te sors du match très tôt. C'est ça qui m'inquiète chez les Blue Jays de Toronto. L'autre chose, et là, je vais aller un peu loin, quitte à te faire sursauter, à l'attaque, regarde, c'est les deux équipes qui ont la meilleure moyenne de présence sur les buts. Je l'ai dit pour les Brewers tantôt, ça compte pour les équipes. Les Blue Jays 1, les Yankees 2. Sur le plan de la puissance, oui, sur papier, ça fait peur. Puis à l'attaque, c'est comme si tu avais une équipe de bazooka contre une équipe de tire-poids. Et moi, c'est ça. Les Yankees ont le potentiel de te changer le match comme ça, alors que les Blue Jays, il faut plus que tu travailles. Et c'est ça que les Yankees ont comme avantage. Puis compte tenu, c'est vrai que les Blue Jays ont eu du succès contre les Yankees cette année, mais rappelle-toi, Marc, on les a eus dans une séquence où Fried et Rodon, en milieu de saison, hein, tu te rappelles, ça n'a pas bien été. Là, les deux sont en forme. Puis c'est pour ça, Marc, j'ai l'impression que les Yankees vont passer à travers. Puis ils vont passer à travers, je pense qu'il n'y aura pas de sixième puis de septième match à Toronto.
Ben, j'espère, parce que c'est un 3-5. Mais
ben oui, c'est vrai, mais 4-7. Mais ça pourrait se terminer en 4. Je pense pas que ça aille en 5. Je vais y aller de ce côté-là. Ça ira pas en 5 matchs. Je pense que les Yankees vont avoir là-dessus sur les Blue Jays. Il y a trop de choses qu'il faut qu'ils aillent comme il faut. Ceci dit, les Blue Jays peuvent les battre. Ils l'ont prouvé cette année. C'est juste que je trouve les Yankees extrêmement dangereux dans la position où ils sont actuellement.
Ben, en tout cas, moi, les Yankees m'ont pas impressionné tant que ça dans la série face aux Red Sox. Outre Schlettler. Lui, il m'a impressionné. M'ont pas impressionné tant que ça au point de dire, OK, là, c'est le rouleau compresseur qui s'amène. Je suis pas là. Et c'est là que peut-être que les Blue Jays peuvent en profiter. Et ça, c'est la beauté du baseball, Alain. Dans le fond, là, on a parlé de trois séries, là. Ça peut aller complètement d'un côté comme de l'autre. Je trouve que c'est la beauté cette année dans le baseball. C'est que on peut s'obstiner sur des petites choses qui vont se passer sur le terrain, mais ça peut effectivement. Hey, écoute, les Blue Jays peuvent la gagner en trois, là. Ça peut arriver, là. C'est pas comme sorti complètement, là. Comme les Yankees peuvent balayer, puis les Blue Jays, puis gagner les deux premiers matchs par des pointages élevés, là. Ça peut arriver, ça aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Moi, j'avais choisi les Yankees face aux Red Sox, mais pas pour les raisons qu'ils ont gagnées, de la façon dont ils l'ont gagné. Alors, peut-être que ça va virer de l'autre côté après ça. Alors, moi, encore une fois, je me répète un peu, mais c'est comme, je trouve que c'est nous, les amateurs, qui vont en sortir gagnants parce que on pense qu'on va avoir du très, très bon baseball.
Oui, puis ta remarque, Marc, s'applique sur la série Détroit-Cleveland. J'ai choisi Détroit, mais pas de la façon que ça s'est passé.
C'est ça.
D'ailleurs, parlant des Tigers, c'est contre les Mariners de Seattle. Marc, je vais te laisser aller tout de suite en te citant. Celui qui va gagner Détroit-Cleveland ne fera pas très long contre Seattle. C'est encore ton opinion?
Oui. Oui. Mais moi, je trouve que Seattle, c'est... l'équipe qui s'est améliorée le plus à la date limite des transactions, on a comblé des besoins, on a de la puissance, au monticule, on s'entend là, qu'on est très, très bien équipé là, pour affronter une équipe qui n'a pas beaucoup frappé dans le dernier droit, qui n'a pas beaucoup frappé dans la série face aux Guardians, outre la septième manche là où ça a débloqué là, dans le dernier match. Je vois pas comment. Rodriguez allait mieux, elle a connu une très, très bonne fin de saison au Lio. Josh Naylor a eu un impact. Je vois pas comment. Moi, encore une fois, le baseball peut nous surprendre. Les Tigers, Alain, même s'ils ressemblent un peu plus aux Tigers du mois de juin, inévitablement, Tarek Skubal va faire en sorte que la série se terminera pas en trois, là. Mais sinon, je pense que ça va aller une série qui va aller en quatre pour les Mariners.
Oui, puis Marc, on sous-estime un peu trop l'attaque des Mariners, je trouve. Tu sais, les chiffres moins spectaculaires qu'ailleurs, mais le MPP+, Marc, t'as 113. C'est parmi les meilleurs de la Ligue américaine. Là. Le stade fait en sorte que les chiffres sont pas très spectaculaires, qui rendent aussi les lanceurs meilleurs. Mais on commence à Seattle. Si ça s'en va en 5, ça s'en va à Seattle. Regarde, ça se pourrait que ce soit très court, puis de ce côté-là, j'y vais avec les Mariners de Seattle. Faut que tout aille bien chez les Tigers. Puis on n'a pas le bénéfice, en plus, Marc, de cette journée de congé supplémentaire-là, contrairement à la Ligue nationale.
Ouais.
Tu sais, la relève, en deuxième moitié de saison, elle a été essoufflée chez les Tigers. C'est ça. Bonne chance, mais ce sera pour l'année prochaine, dans ce cas-là.
Ouais, c'est la série, honnêtement, où là, je suis... plus confortable avec, avec mon choix.
Ouais. Bon. Marc, quelques nouvelles dans le monde du baseball. Principalement, le fait qu'il y a plusieurs postes disponibles comme gérant. Il y a beaucoup de vétérans qui sont là. Si on fait le tour, Atlanta avec Snitker, les Angels Washington, Bochy avec Texas, Melvin avec San Francisco, peut-être dans la nouvelle génération, Baldelli Minnesota. On peut peut-être même ajouter Washington. Je serais très étonné que Miguel Carrero soit de retour. Là, je pense qu'on va repartir sur des bases nouvelles avec les Nationals. Bref, il y a beaucoup d'anciens gérants qui vont partir. Est-ce qu'on va embaucher des joueurs plus... pas des joueurs, des gérants plus malléables?
Je ne pensais pas que tu t'en allais vers cette expression-là ou ce mot-là. En tout cas, ça va être intéressant de suivre ça, Alain. Est-ce que effectivement, on passe, tu sais, d'un Snitker, d'un Bochy, beaucoup d'expérience, manière de faire, évidemment, qui est très, très appréciée, pour en passant, par les joueurs, là. Mm-hmm. Est-ce qu'on s'en va plus vers de la jeunesse? Est-ce qu'on s'en va plus vers, justement, un gars organisationnel, dans le sens que, bon, on suit, bon... j'ai hâte de voir les tendances. Puis là, Alain, c'est un échantillon assez élevé pour nous donner justement cette nouvelle façon de faire. Je sais que David Ross a levé la main pour le poste à Atlanta. Je ne sais pas si Alex Antopoulos a déjà amorcé des discussions à ce niveau-là, mais c'est un vent de changement, de toute évidence. J'ai hâte de voir la tendance. Ça va nous indiquer bien des choses, selon moi, de ce qui se passe dans les organisations actuellement.
Oui, Albert Pujols, son nom est mentionné avec les Angels, assez proche du propriétaire. Marc, trop peut-être, là.
En tout cas, toujours est-il qu'il y en a un qui a payé pas mal cher l'autre, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Ben, c'est ça. Ça nous des, ça nous des amitiés, ça dit ça quand même. Ben, c'est juste, dans ce cas-là particulier, Marc, pour Rose, c'est clair qu'il va être gérant. Écoute, il s'est fait la main en République dominicaine l'hiver dernier. C'est la même chose avec Molina. C'est pas parce qu'il avait besoin d'argent, Albert Pujols. On s'entend là-dessus. C'est juste que, c'est ça, avec les Angels, est-ce que c'est la bonne équipe pour y aller d'une étude de tendance, Marc, avec les Angels? Je suis pas tout à fait certain. Parce qu'Albert Pujols voudra pas se faire dire quoi faire, lui, avant le match.
Oui, encore. En fait, c'est ça, là. Tu sais, il y a des philosophies d'équipe, Alain, puis on verra. Mais tu sais, si jamais on veut avoir effectivement le contrôle là-dessus, c'est peut-être pas l'homme de la situation, alors qu'ailleurs, peut-être. Bon, ça reste à voir. Ça reste à voir. Ouais. Pour ça, quand même. Tu sais, c'est beaucoup de gérants là qui. Le pire, c'est qu'on s'attendait peut-être à ce que Mendoza ne revienne pas du côté des Mets, alors qu'on a confirmé qu'il serait de retour. Alors ça, c'est un affaire de régler. Mais c'est quand même beaucoup de gérants là qui, beaucoup d'équipes en fait qui sont sans gérants là lorsqu'on va amorcer l'hiver. La saison hivernale du baseball qui est toujours très occupée, hein, soit dit en passant.
Oui. Ben, dernière chose, Marc, Jacques Doucet qui est de nouveau candidat pour le trophée Fortrick. Ça, c'est l'aile du Temple de la Renommée où on a les descripteurs de match. Moi, je l'ai déjà mentionné, Marc, Jacques Doucet a été le modèle pour tous ceux qui font du baseball au Québec. Je m'inclus là-dedans. J'ai grandi avec Jacques Doucet. Il a agrémenté mes étés pendant de nombreuses années. Surtout dans ma période adolescente, puis même étant adulte, en fait. Mais Jacques mérite d'être là. Je souhaite qu'on prenne en considération l'impact qu'il y a eu au Québec, puis le fait que dans tous ceux qui sont candidats, puis il y en a des très bons, Marc. Tu regardes les candidats qu'il y a là, puis tu dis, si Jacques n'est pas nommé, c'est pas par faute de compétence, parce qu'il y en a des très bons. C'est juste que j'ai hâte, à un moment donné, qu'on reconnaisse le marché dans lequel il était, puis il y a une méconnaissance de ça. C'est ça que je reproche un peu aux gens qui vont être appelés à déterminer qui sera le récipiendaire. Mais il mérite sa place. Je veux juste le souligner haut et fort. Puis je pense que je peux me faire le porte-parole de tous ceux qui font du baseball au Québec.
Ben, écoute, Alain, c'est je veux dire, il est finaliste à nouveau. Ça fait des années qu'il est finaliste. C'est pas... T'sais, on a envoyé, là, je dis « on » parce qu'on était un groupe, évidemment, parce que le départ des expos a fait mal à la candidature de Jacques. On se le cachera pas, là, les autres, là, ils ont tous des départements de médias qui peuvent monter un dossier. On le fait à plusieurs reprises au Québec. On a envoyé les dossiers. J'ai même, moi, écrit personnellement au Temple de la Renommée pour leur dire « je pense que vous réalisez pas l'impact que ce gars-là a eu. Je veux dire, c'est incroyable. » Puis il a créé une langue de baseball, il a créé... C'est, je veux dire, toute la province écoutait là, les codes d'écoute de la radio des expos, Alain. À l'époque du réseau Télémédia, qui est devenu Radio Média par la suite, il y avait 1 million de codes d'écoute l'été, partout au Québec. Ouais. Ils écoutaient le baseball des expos. Jacques a fait une différence, une grande différence. Puis c'est ça qu'on tente d'amener, évidemment, aux gens du Temple de la Renommée, mais ils l'ont jamais entendu, ils comprennent pas. C'est ça que je trouve de valeur. Puis tu as raison de dire qu'Alain, tous les gens qui ont reçu le titre le méritent. Ce sont, tu sais, je veux dire, l'histoire, la riche histoire du baseball, la radio en fait partie inévitablement. Puis à chaque fois qu'un est nommé, tu dis, ben oui, c'est vrai. Mais Jacques aussi le mérite.
Ouais.
Et je trouve ça plate parce que, tu sais, Jacques avance en âge, une santé fragile. Il me semble que ça serait vraiment quelque chose. Tu sais, il y a le fameux documentaire de Netflix là, qui va sortir sous peu. Là, puis il va dire, bon, c'est comme si ça met la boucle. Tu sais, parce que moi, honnêtement, Alain, j'ai hâte qu'on mette la boucle une fois pour toutes là, sur l'histoire des expos, dans le sens que, hey, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est qui est à blâmer? Même si le documentaire nous donne une réponse, ça nous les ramènera pas nécessairement plus rapidement. Là. Mais tout ça pour dire que, il me semble que ce serait plus cette nomination de genre qui, au Temple de la Renommée du baseball, qui ferait, bon, ben voilà, on peut maintenant partir en paix sur une bonne note. Il a là sa place au Temple de la Renommée.
Oui, c'est sûr. Puis juste donner un exemple, les gens qui suivent le baseball un peu, tu sais, tu as Gary Cohen parmi les finalistes, s'il le gagnait, regarde, tu peux pas chialer contre ça. Joe Buck, la même chose. Regarde, ils sont tous méritoires. Mais c'est ça. Au moins considérer, essayer de comprendre l'impact que Jacques a eu. C'est le défi vraiment. Puis à partir de là, prenez votre décision. C'est de la méconnaissance du dossier de Jacques probablement.
Oui, parce qu'avant, c'est un comité. Hein, ouais. Rapidement, je termine là-dessus, mais c'est un comité. Ouais. Mais à l'époque, ouais. Le comité là était, tu sais, des Vince Scully étaient sur le comité. Là, des gars qui ont vraiment connu Jacques, qui ont côtoyé Jacques.
C'est ça.
Là, le comité là, c'est des gens qui n'ont pas côtoyé Jacques, qu'ils connaissent de réputation, mais comme je l'ai dit, qu'ils l'ont pas entendu. Alors excusez l'expression, mais un pitch de vente qu'on a, tu sais, que plusieurs ont tenté de faire, mais que si les expos existaient encore, moi, je suis convaincu que Jacques Doucet serait déjà au temps de la renommée.
Oui.
Mais là, qu'est-ce que vous voulez? On est encore pris avec ça. Alors, on se le souhaite vraiment, 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 vraiment beaucoup.
Oui. Bonne chance, Jacques. Maintenant, il y a des matchs qu'on vous présente cette semaine. L'horaire est présenté par Lester, comme à l'habitude, maître du Spoke Pete et des Hot Dogs depuis 1931. Ben, c'est le temps, avec des matchs, d'accueillir les amis pour un bon souper devant un match de baseball, un barbecue à l'extérieur. Fait encore beau, pourquoi pas en profiter. Donc, un festin famille aussi. Lester est avec vous, disponible chez votre épicier préféré. Un horaire un peu spécial pour les séries de division. D'abord, samedi, évidemment, Chicago à Milwaukee et les Dangereuses à Philadelphie. À Milwaukee, ce sera à 14h samedi. Et le deuxième match à Philadelphie, 18h30. Donc, coup sur coup, il n'y aura pas de match ce dimanche. Donc, congé. Et lundi, on reverra en soirée ces deux mêmes confrontations. Dodgers-Phillies, 18h. Et Cubs-Brewers à compter de 21h, coup sur coup. Par la suite, le match numéro 3 vous sera présenté mercredi, les heures à déterminer. Donc, on vous invite à consulter, évidemment, le site Internet de RDS pour avoir plus de détails. Nous vous tiendrons au courant, évidemment, des heures lorsque nous aurons la confirmation. On est prêt pour les séries de division en ce qui concerne RDS Ligue nationale, avec un œil particulièrement attentif sur les Dodgers et les Phillies de Philadelphie. On se souhaite une très bonne série et il y aura le prochain balado, évidemment, à la veille des séries de championnat de la Ligue nationale et de la Ligue américaine. Bon baseball, tout le monde!
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay. Fiers partenaires de votre passion.